Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque mois, Chant contre Chant, émission préparée par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante, vous présente son regard sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lau, et j'aurai à côté de moi Françoise Lau. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Jean Witowski, bonjour Jean.
Bonjour.
Maintenant, ben voilà, nous sommes très très près du Festival de Cannes qui va se dérouler du 13 au 24 mai. Et comme l'an dernier, Chant contre Chant vous donne chaque jour rendez-vous à midi pendant toute la durée du festival pour une brève chronique sur les films de la compétition officielle. Ceci dit, ce n'est pas parce que le Festival de Cannes arrive que les écrans sont déserts et nous avons le plaisir de vous présenter notre sélection du mois. En commençant par un sujet et un film au sujet très très particulier, Histoire de Judas, du réalisateur franco-algérien Rabah Hammer Zaimesh. En terminant par un film également inhabituel à bien des égards, Taxi Téhéran, du cinéaste iranien Yaffa Panahi. Et en intercalant entre ces deux ovnis, un film classique, solide, qui rentre davantage dans la catégorie grand public, Jamais de la vie, de Pierre Jolivet. Et comme d'habitude, on terminera l'émission en vous signalant quatre films qui nous paraissent importants. Bon, on doit commencer avec Histoire de Judas. Alors, combien y a-t-il, à votre avis, de films sur Jésus à l'écran? Vous diriez combien?
Une quantité.
Une trentaine.
Oui, une trentaine. Ben, le nombre, il y en a quelque chose comme 77. Et je pense que j'en ai encore oublié. Le plus connu, le plus ancien, pardon, étant Le Christ marchant sur les flots de Georges Méliès en 1899. Les plus connus étant Le Roi des Rois de Cécile B. 2000. L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, Le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, et bien sûr La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004, qui a fait couler au moins autant d'encre que de sang. Alors, quand on arrive après une telle avalanche de films sur les premiers temps du christianisme, on se doit d'apporter un regard différent. Françoise, est-ce que c'est le cas avec le film de Rabah Hammer Zaimesh?
Un regard différent, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que dans ce film, Jésus ne tient pas du tout le premier rôle. Et ensuite, et surtout parce que Zaimesh jette un tout autre éclairage sur le personnage tellement décrié de Judas. Un Judas, encore aujourd'hui, c'est un fourbe, un traître, un hypocrite. Et un Judas, c'est aussi le petit trou dans la porte qui permet de voir sans être vu. Et quant à l'expression « un baiser de Judas », c'est le comble de l'ignominie. Et pourquoi ? Parce que dans les évangiles, c'est Judas, le disciple maudit, qui a vendu son maître, rien moins que le Christ, pour quelques pièces d'argent. C'est Judas le traître, c'est Judas le juif, et depuis deux millénaires, porteur de la hargne antisémite dans le monde.
Et c'est Zaimesh, un cinéaste arabe, qui vient brouiller les cartes.
Oui, Zaimesh. Zaimesh, un franco-algérien, arabe et musulman, c'est lui qui incarne le personnage de Judas à l'écran. C'est lui qui filme des juifs avec un respect et une écoute remarquables dans le contexte d'aujourd'hui. Zaimesh nous dit, un personnage comme Judas a une dimension tragique, inouïe. Il mérite d'être réinventé, réimaginé. Et il fait du coup de Judas le disciple préféré de Jésus, fidèle jusqu'au bout. Il dit aussi, enfant, j'admirais Jésus sans comprendre pourquoi il avait besoin d'un traître pour accomplir sa mission. Et il ajoute, on tue des juifs depuis des milliers d'années au motif qu'ils sont responsables de la mort de Jésus.
Alors, quelles sont à tes yeux les scènes les plus fortes de ce film?
Je dirais en tout cas la séquence d'ouverture, qui est très significative. On y voit une montagne rocailleuse, ocre. Le film est tourné en Algérie, dans les Aurès. Ça n'a rien à voir avec les paysages de Palestine. On y voit un homme vêtu d'une longue tunique. Il porte un turban et il gravit la pente à grandes enjambées jusqu'à un abri de pierres sèches. Il vient y chercher Jésus, après ses 40 jours, dans le désert. Et l'image est très belle, qui montre Judas portant sur son dos un Jésus affaibli par le jeûne pour le redescendre dans la vallée des hommes. Et à ce moment-là, Jésus et Judas font corps, un seul corps. Même fusionnement d'ailleurs à la fin du film, dans la scène du tombeau. Zaimesh a filmé aussi les marchands du temple, mais à sa façon. C'est Judas, et non pas Jésus, qui chasse les marchands du temple, qui brise l'une après l'autre les cages de bois contenant les animaux destinés à être immolés, et qui, tel le prophète Isaïe, hurle « Que m'importe la multitude de vos sacrifices ? Je suis saturé de vos sacrifices, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux point. » Il met aussi en scène la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, et voilà qui en dit long. Voir Timbuktu, d'un autre cinéaste musulman lui aussi, la scène insoutenable de la lapidation. Et enfin, dans le film, on trouve également la scène de la... Ou plutôt, c'est la mère de la jeune femme pardonnée qui enduit de parfums coûteux la chevelure de Jésus.
Alors, dans l'arrestation de Jésus aussi, il me semble que Zaïmèche fait tenir à Judas un rôle qui n'est pas du tout celui de la tradition.
Bah, en fait, Judas n'est pas présent du tout à ce moment-là. Et il n'y a pas de baiser de Judas. Il n'y a pas d'histoire de denier non plus. Judas n'a rien à voir avec tout ça. Lui, il est avec les résistants à l'occupation romaine qu'il appelle ses frères d'armes. Son rôle dans le film, « Fais ce que tu dois faire », lui dit Jésus, son rôle, c'est de détruire les manuscrits d'un jeune scribe qui note tout ce que dit et tout ce que fait Jésus. Détruire les manuscrits afin de préserver les paroles de son maître, de la rigidité de l'écrit, afin de fermer la porte au dogme, à l'endoctrinement et aux cruautés qui s'en suivent inéluctablement. Bon, il faut voir ce film subtilement déroutant par les choix de Zaïmèche, par les paysages magnifiques mais totalement inattendus, par la langue totalement incongrue, c'est du français. À mes yeux, c'est un film incongru, donc un film à voir, donc un film à discuter.
Incongru. Jacques, est-ce que tu dirais toi aussi que ce film est incongru ?
Incongru, oui, sans doute. En fait, tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de fiction sur Jésus. Le personnage de Judas a beaucoup inspiré aussi, notamment les littérateurs de tous bords, de Claudel Amauriac ou de plus récemment de José Saramago, Eric Emmanuel Schmitt. Il était donc pour moi très intéressant de voir ce qu'allait en faire un beurre du 9-3 et j'avais une certaine attente sur ce film. Alors, disons que j'ai été un peu à la fois déçu et enthousiaste. Alors déçu, pourquoi ? Parce que le réalisateur ne donne pas une interprétation réellement cohérente de Judas. Il montre à travers un certain nombre de situations un apôtre qui est proche de Jésus, mais qui aurait pu être au fond l'un ou l'autre des 12. Mais alors par contre, j'ai été absolument enthousiasmé par la façon dont Hammer Zaïmèche se saisit de différents passages des évangiles pour les reconstruire de façon totalement originale, est totalement personnel, et pour en faire une fiction qui est à la fois fidèle à l'esprit général des évangiles, tout en s'en écartant, alors très nettement, dans le détail. Et au fond, je pense que l'ambition du film, peut-être plus que de réhabiliter Judas, sur lequel, à mon avis, le succès n'est que partiel, était de montrer que les grands textes sacrés ne sont pas intouchables, que l'on peut les revisiter, en faire une œuvre de fiction. Et en cela, à mon avis, il réussit superbement. Et évidemment, c'est un message formidable contre tous les fondamentalismes. Oui, donc, c'est un film que j'ai beaucoup aimé sur ce plan-là.
Sur cet aspect aussi, enfin, je partage tout à fait ton avis, cette revisitation des textes pour montrer que ce n'est pas du sacré, voilà. Ça me paraît très intéressant. Et toi, Jean ?
Ben, non, moi, je suis moins optimiste et moins sympathique que vous. Parce que pour moi, ce film est fondamentalement une mystification. En ce sens que... le Judas qu'on voit n'est pas le Judas qu'on connaît, à quel on s'attend, le Judas des 30 pièces d'argent. Mais finalement, c'est un autre disciple. Alors pourquoi l'avoir appelé Judas ? Ça n'a strictement rien à voir avec Judas. Pour nous, Judas, c'est celui qui trahit. Or là, il n'y a pas de trahison. C'est un disciple comme un autre. Et je trouve que c'est un peu de l'abus de confiance de l'avoir appelé Judas. Parce que c'est pas Judas.
Mais c'est pas Judas de la tradition, tu veux dire. C'est pas Judas qui nous a été transmis par les évangiles.
Absolument.
Mais justement, l'intérêt du film, c'est de remettre en cause une tradition qui repose sur le nom de Judas. Judas, c'est très proche de Yehudi, du juif. Et c'est le juif qui est porteur, justement, de cette trahison. Je veux dire que si on lit l'évangile apocryphe de Judas, on l'a retrouvé dans la fin des années 70, c'est ça? On a une autre lecture de Judas. On privilégie celle des évangiles, des quatre évangiles canoniques. Mais pourquoi le faire? On peut remettre en question.
Attention, les quatre évangiles canoniques ne disent pas tous la même chose.
Non, mais ils disent quand même le traître.
Non, le premier...
Il l'a livré.
Non, le premier ne parle même pas du traître. Donc, en fait, on a déjà...
Le premier, Marc, il dit il a livré Jésus.
Voilà. Mais il livré peut être simplement...
Ah.
Il n'y a pas de notion de traître.
Dans
les premiers textes de Pierre, on n'en parle pas. Donc, il y a manifestement eu une accélération entre les années 70 et 100 de ce mythe anti-juif, quoi.
C'est Matthieu,
les évangiles sont polémiques. Ils sont polémiques contre la synagogue à ce moment-là. Il s'agit de défendre une autre... Voilà,
certains.
C'est une polémique.
Oui, enfin, là on parle effectivement, on compare
oui,
ce film...
Oui, il faut pas trop comparer.
Alors moi, justement, où je rejoins un petit peu... Enfin, c'est pareil, mais je rejoins un petit peu Jean, en ce sens que je trouve ce film assez à la fois passionnant et j'étais très, très déçu aussi. Passionnant pour tout ce que tu as dit, Jacques. Déçu en ce sens que j'ai l'impression que son parti pris, c'était de faire quelque chose qui soit tout à fait différent à la fois de ce qu'on lit dans les évangiles et de la façon dont les autres cinéastes ont traité, oui, ont traité les péplums. Ouais. Et qu'à partir de ça, il s'est dit, ce n'est pas vraiment par inspiration qu'il a fait, par une espèce de décision, gêner, de surprendre, mais un peu, voilà.
Oui, mais il reprend en fait des noms, des thèmes, des épisodes, et puis il les rebrasse. Bon, par exemple, oui, il va nommer Bethsabée, la femme
adultère.
Sans doute avec des réminiscences de.
Ça ne veut rien dire. Pourquoi
Bethsabée? Oui, parce que Bethsabée est adultère, puisque David l'a prise dans son lit.
Oui, mais enfin, c'est l'Ancien Testament, donc ça.
C'est un rebrassage.
Jésus étant juif, il ne voit parler que de l'Ancien Testament.
Mais c'est un rebrassage.
Pas vraiment. Non, c'est une reprise de texte que nous n'avons pas repris. On l'appelle. Moi, je trouve très intelligent d'avoir appelé Bethsabée. Ouais. Ça nous ramène directement à l'épisode du roi David.
Oui, mais ce n'est pas dans l'évangile. C'est quelque
c'est
chose.
C'est pas dans l'évangile, mais l'évangile est polémique.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Jésus, proprement dit? Moi, je dis qu'il m'a terriblement déçu.
Non, mais il est fallot. Hein.
Il est tellement fallot. Je n'arrive pas à voir dans ce personnage quelqu'un qui est capable d'enchanter le monde comme l'a fait l'autre.
Oui, mais je pense qu'il y a un gros défaut quand même dans ce film, c'est la faiblesse des acteurs.
Oui. Et leur diction.
On
comprend pas
qui sont vraiment pas bons.
On comprend
en
pas
particulier, il y a un type là, le marchand de parfums, mais il est d'un ridicule absolu. Ponce Pilate, il est très nul. Et en plus, il a le culot de dire gouverner, c'est prévoir, qui est quand même une parole
c'est
historique
une actualisation.
Qui date du 19e siècle.
Je sens bizarre. Que tu ne partages pas.
Moi, on peut avoir cet avis. Hein, je veux dire, simplement, au fond, je dirais c'est presque un film qui, de ce point de vue-là, même s'il est très travaillé sur la forme, etc., peut être un peu une forme de documentaire. Au fond, on est plongé, où on essaie d'être... Enfin, le réalisateur essaie de nous plonger dans la Galilée du siècle de Jésus, avec des gens qui n'étaient pas des énarques, hein, donc qui parlaient pas forcément très très bien, qui n'étaient pas forcément des gens qui, comment dirais-je, avec un âme sur la tête, comme on les a représentés ensuite. Donc, de ce point de vue-là, il désacralise, au fond. Hein, et c'est pas... Ça m'a plutôt intéressé. Au fond, j'aurais pas aimé un espèce de Jésus que on peut...
Absolument,
je dirais, comme un tableau du 17e, du 18e. On dit, ah bah oui, c'est lui, forcément.
Il a fui le péplum comme étant vraiment le piège à éviter.
Il a complètement fui le péplum et moi je trouve ça plutôt sympathique.
Maintenant, on est quand même très déconcerté de voir la Galilée transposée dans les Aurès, parce qu'il n'y a aucun rapport entre les paysages de la Galilée et ceux des Aurès. On est très déconcerté, je ne sais pas vous, mais moi, de les entendre tous parler français.
Jérusalem, ça devient un simple petit village des Aurès. La transposition, ça va très loin quand même.
Oui. Ça va très loin, mais je pense que l'atmosphère est restituée. Pour moi.
C'est beau en tout cas, tout ça.
Les paysages sont très beaux.
Les paysages sont magnifiques.
Oui. On n'est pas du tout en Galilée.
Mais ces paysages.
Les acteurs n'ont vraiment. J'arrive pas. Ça m'a gâché mon plaisir en tous les cas.
On va d'autant plus rester sur ces paysages qu'avec. Que maintenant on va passer au film Jamais de la vie de Pierre Jolivet, ou alors c'est vraiment un autre type de paysage. Hein. Là, pas de décalage de temps, de lieu ou de société. On est bien chez nous, ou plutôt on peut même dire qu'on est mal chez nous. Dans un 21e siècle assez désespérant, qui fait davantage penser à un crépuscule qu'à une aurore. Alors Pierre Jolivet, c'est un cinéaste engagé révolté qui a 62 ans, qui a réalisé 15 longs-métrages, qui vient de la banlieue, qui parle de la banlieue. Il met en scène des anti-héros à la vie cabossée, qui se trouvent souvent pris dans un engrenage, et qui font souvent penser aux personnages des films de John Huston. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le film fétiche de Pierre Jolivet, c'est Asphalt Jungle. On retrouve tous ces points communs dans ces films marquants, que ce soit dans Fred, dans En plein cœur, dans Ma petite entreprise. Alors Jacques, il me semble que Jamais de la vie fait bien partie de la famille, non?
Ah, tout à fait. Jamais de la vie nous plonge dans la vie d'un veilleur de nuit, dans un centre commercial de la région parisienne. Vous savez, une de ces grandes surfaces entourées d'un gigantesque parking. Alors évidemment très animé le jour, mais d'un vide sidéral la nuit. Et on trouve là le premier défi du réalisateur, c'est comment intéresser le spectateur à la vie de cet homme qui, lui, s'ennuie à mourir toutes les nuits, quoi. Alors la première chose que le réalisateur fait, c'est de choisir un comédien formidable. C'est Olivier Gourmet qui joue le rôle de Franck, ce veilleur de nuit. Et il donne à son personnage une épaisseur extraordinaire. On peut dire d'une certaine manière qu'il porte largement le film sur ses robustes épaules. Franck est un taiseux, un coriace au cœur tendre mais à la colère facile, et on comprend vite qu'il a été plus brillant dans une autre vie, sans doute comme ouvrier qualifié et délégué syndical. Mais une grève dure, qu'il a menée sans succès contre la fermeture de son usine, l'a laissé il y a de cela quelques décennies, non seulement sur le carreau, mais aussi fiché comme une grande gueule qu'il vaut mieux ne pas embaucher. Et donc la spirale infernale du chômage, de l'alcool, a brisé sa vie familiale et professionnelle, et l'a tenu sans emploi pendant plus de 10 ans. Et il se retrouve à plus de 50 ans vivoté dans ce CDD de veilleur de nuit, et avec pour seule perspective, ça le film montre bien, au mieux de voir son contrat converti en CDI et de travailler jusqu'à sa mort, ou de pointer au Resto du Cœur avec une retraite de misère.
Oui, c'est un tableau assez sombre de notre société.
C'est pas un tableau très gai, mais malheureusement un peu réaliste, assez réaliste. Le film est d'abord un film social, c'est vraiment une tranche de vie, un peu dans le style d'un Ken Loach en Angleterre. Donc autour de Franck ravitent des personnages qui forment un catalogue, là aussi pas très réjouissant, des misères de notre société. Il y a un beau-frère dépressif, une sœur assez exubérante, mais qui a une fâcheuse tendance à tout détruire autour d'elle. Un ancien collègue qui se retrouve handicapé suite à un accident du travail, sans doute dû à l'ivresse, et qui survit en poussant des chariots. Il y a aussi le jeune beurre sympathique qui traficote dans la cité et qui sait trouver une TV ou un ordinateur pour pas cher. Le collègue africain qui rêve de faire venir sa famille et les éboueurs qui récupèrent dans les poubelles tous les matériels électroniques assez peu cassés qu'ils revendent à Franck pour qu'il les répare. C'est un hobby qui lui redonne un peu de sa dignité. Et puis il y a surtout une extraordinaire assistante sociale, Mylène, qui est jouée par Valérie Bonneton et dont on découvre rapidement qu'elle se débat en fait dans les mêmes difficultés que ceux qu'elle est censée aider. Son mari l'ayant quitté avec 2 enfants sur les bras et des dettes qui s'accumulent. Et Franck et Mylène, donc ces 2 éclopés de la vie, vont essayer timidement de se rapprocher, ébauchant un début d'intrigue sentimentale.
Alors une intrigue sentimentale, mais il y a aussi un thriller.
Oui, alors le réalisateur, donc Pierre Jolivet, a pimenté son récit par une intrigue policière. Le sujet, Franck découvre peu à peu les préparatifs d'un casse à la voiture Bélier et il va essayer d'en tirer profit. Alors, sur un plan psychologique, l'idée est intéressante, parce que le héros, qui n'a plus rien à perdre, au fond, veut réaliser un dernier exploit qui lui rendra d'une certaine manière sa fierté, comme une sorte de rédemption, même si c'est au prix de sa vie. Et on retrouve là une image classique du héros des films noirs américains, de Ford ou de Huston, que tu citais tout à l'heure. Le problème est que cette partie du film pêche un peu par son invraisemblance. Si la chronique sociale est remarquable par sa finesse, la partie thriller est moins crédible, et puis surtout la réunion dans un même film d'un très grand réalisme dans la peinture sociale et puis d'un irréalisme assez voyant dans le scénario du thriller rend le film un peu bancal, notamment dans les 15 dernières minutes. Si on élimine cet aspect thriller, il reste un film social très intelligent et remarquablement interprété.
Françoise, est-ce que toi aussi tu étais gênée par ce côté bancal du scénario, ou est-ce que tu as trouvé que ça s'organisait très bien tout ça?
Moi j'étais gênée partout. Non, pas vrai. J'aime beaucoup Olivier Gourmet et j'ai un bonheur fou à le voir jouer d'un bout à l'autre, sinon que c'est le même de la première à la dernière image, alors qu'il sait faire plein de choses, et là il en fait qu'une.
Il l'a fait bien.
Mais moi j'ai vu un film consensuel, plein de bons sentiments, un énième film sur les banlieues. Ça marche parce que le film remplit le cahier des charges. Le cahier des charges pour être commercial, on y trouve tous les ingrédients.
Pas très commercial, cette misère.
Mais je crois que c'est un film qui plaît justement parce qu'il met en scène quelque chose qui est dramatique en France, à savoir tous ces événements tragiques qu'on a vécu ces derniers temps, les suicides des salariés d'Orange, les grévistes des abattoirs des poulets doux, les mouvements sociaux. Et ça, il y a un côté généreux dans le film, plein d'humanité auquel, bien sûr, je suis sensible. Mais je pense que c'est un film qui répond justement au cahier des charges avec tous les ingrédients, la banlieue, la précarité, la solitude, les sans-papiers, la pègre, l'intrigue sentimentale. Quant au thriller à la fin, j'ai trouvé que le film s'enlisait dans ce thriller complètement improbable. J'ai décroché. Certes, un film généreux, plein d'humanité, mais moi, ça m'a pas suffi.
Oui, je crois que ce côté thriller, finalement, il fait un petit peu l'unanimité si le reste ne le fait pas, Jean.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jacques. Et d'ailleurs, je voudrais en faire remarquer que un bon acteur peut faire un film, contrairement à ce qu'on a vu dans le film précédent où les acteurs sont pas bons. Là, tout le film repose sur lui, s'il n'y avait pas lui, ça serait banal et inintéressant.
Ouais, exactement.
Mais lui, il met de l'ambiance, il met du cœur, il met de la présence, il met tout ce qu'on veut là-dedans parce que ça fait un film émouvant et on se laisse complètement prendre par ce type qui nous raconte son histoire, qui est complètement banale et inintéressante. Alors, bien sûr, la fin est farfelue. Et là, je suis d'accord aussi, ça veut pas dire grand-chose, c'est ces 15 dernières minutes où on change complètement de ton, où on voit un autre film qui n'a rien à voir.
Oui, même pour la première partie, je trouve que ça fait intéressant sur bien des plans. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère du film au début. C'est le corps dans la nuit, la pluie, c'est la solitude, les lampadaires qui éclairent le bitume mouillé.
Ce type qui fait sa petite bagnole, c'est d'un triste.
Il y a énormément d'atmosphère, pour reprendre le mot d'Arletty dans l'Hôtel du Nord. Ceci dit, dans cette atmosphère, j'étais un petit peu gêné comme Françoise. Je trouve que le film est trop longtemps à démarrer. Je trouve que toute la première partie, il y a des espèces d'ébauches de situations, des ébauches d'histoire avec son beau-frère, avec sa sœur. On sent que ça pourrait démarrer, mais ça démarre jamais. Et quand ça commence à démarrer et que ça s'emballe un peu, on arrive dans ce thriller qui est complètement loupé. Donc ça, le ballon qui aurait pu être magnifique se dégonfle. Alors sur Fila, c'est un peu une déception.
Mais il a pas la force des Dardennes. Hein. C'est un film social, mais il a pas la force des Dardennes. Il y a un truc.
Je sais pas. Je crois qu'effectivement, c'était pas une très bonne idée de mélanger les deux, parce que on serait resté sur le côté fresque sociale. Je pense que le rythme du film, les décors, enfin l'atmosphère de cette espèce de parking, etc., de sa chambre, etc., avec tous les détails dans sa chambre, etc. Il y a vraiment une atmosphère forte qui est prise. Oui. Le problème, c'est que ce qu'on accepte finalement d'invraisemblance dans un thriller ne passe plus quand on est dans un film justement qui est trop aussi ancré dans la réalité.
C'est
ça qui cloche. Il aurait fait qu'un thriller, je pense qu'on aurait accepté toutes les invraisemblances.
Oui, il aurait fait qu'un film social comme ça démarre, ça marchait.
Et c'est un peu ça qui... Alors moi, ça m'a surtout gêné à la fin, ça m'a pas tellement gêné au début, donc c'est pour ça que je dis, bon, les 15 dernières minutes sont, à mon sens, un peu ratées pour ça, mais je reconnais que on peut être gêné plus tôt, quoi.
Enfin, s'il avait fini par une histoire d'amour entre lui et la fille de Pôle emploi, ça aurait pas été marrant, ça aurait pas été terrible non plus.
Mais je dois dire que, je suis pas tout à fait d'accord avec François. Je trouve que les pièges du film de banlieue, il les évite pas mal.
Oui.
Déjà, par exemple, il évite la fameuse scène de lit incontournable, qui sur laquelle aucun film français ne se fait. Bah lui, il fait un film français sans scène de lit. De même qu'il est bien recommandé qu'un film se termine toujours bien, qu'il y ait de l'espoir à la fin. Or là, ça se termine de la manière la plus désespérée possible. Donc il va souvent à contre-courant des attendus.
Oui, là, je suis assez d'accord avec toi. Et les personnages, contrairement, enfin, en tout cas, l'avis de Jean, sur le film précédent, je crois que l'ensemble des personnages est bien joué. En fait, ils sont assez crédibles, ils sont assez sympathiques. Ils montrent leur misère, leur mais c'est bien fait, et c'est pas, il y a quand même beaucoup de petits clins d'œil un peu comiques, quoi. C'est pas un film qui est noir du bout en blanc.
Tout à fait.
C'est un film qui est fait pour séduire un certain public. Hein.
Et qui marche. Mais ça
et qui marche,
fait,
les gens. On en a parlé avec d'autres personnes. Beaucoup de gens aiment
beaucoup de gens aiment ce film.
Je crois qu'il va...
Il en faut aussi des films qui sont un peu...
Il va séduire des gens.
Je pense... Je vais faire un peu l'avocat du diable. Je pense que si ce film se passe en Angleterre ou encore mieux en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, etc., on va aimer le côté exotique de la misère. Et quand c'est en France, on a un rejet, un snobisme de ça. Donc en disant c'est du déjà vu. Je pense que le même film
fait par Ken Loach.
On peut quand même pas comparer Ken Loach et Pierre Jeunet.
Je ne cherche pas à comparer, mais je dis qu'on est plus sensible à l'exotisme social. Allez, prends curieux.
On va se reposer pour une petite pause musicale et ensuite on va reprendre. Nous allons reprendre maintenant avec le surprenant Taxi Téhéran du réalisateur iranien Yafar Panahi. Ce film n'est pas un film comme les autres. Il a déjà été tourné dans la clandestinité avec des moyens très réduits. Et Yafar Panahi, lui non plus, n'est pas un réalisateur comme les autres. Un cinéaste engagé politiquement, arrêté en 2009 pour avoir participé aux manifestations contre les élections contestées de Mahmoud Ahmadinejad. Et depuis 2010, sous le coup d'une condamnation qui lui interdit de tourner, d'écrire des scénarios, de parler à la presse. Ce qui ne l'a pas empêché depuis de réaliser 3 films. Dont ce Taxi Téhéran qui vient de recevoir l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Alors, la question qui se pose, à qui vont les applaudissements de l'Europe? Au réalisateur ou bien à l'homme qui brave le régime des Mollahs? Jean, est-ce qu'il n'y avait pas lieu au départ de se méfier de cette avalanche de lauriers dressée par les critiques et les festivals?
Oui, absolument. D'ailleurs, moi je suis allé voir ce film un petit peu à reculons. Je me méfiais de ce que tu viens de dire. Et je m'attendais à une critique sévère du régime et à la démonstration de la supériorité de nos démocraties sur un régime de Mollah. Eh bien, d'une façon formidable, je trouve un vrai film, émouvant, drôle parfois, vivant, intelligent, plein d'amour pour les personnages et aussi pour le cinéma. Finalement, un vrai spectacle comme on les aime. Revenons à l'intrigue. Pour sortir de chez lui, Jafar Panahi met une casquette et se fait passer pour un chauffeur de taxi, goguenard et philosophe. On va voir se succéder comme client et dans l'ordre, un homme partisan de la peine de mort pour les voleurs, mais voleur lui-même, une institutrice à l'esprit ouvert et contre la peine de mort, elle, un nain vendeur de vidéos pirates, un motard accidenté qu'il faut conduire aux urgences de l'hôpital, et son épouse, très préoccupée par le testament de son mari. Deux femmes âgées superstitieuses portant des poissons rouges dans un bocal, la jeune nièce du réalisateur qu'il va chercher à l'école et qui prend très au sérieux ses cours de cinéma, un ancien voisin qui s'est fait voler par un serveur de restaurant et finalement une avocate qui, les bras chargés de roses rouges, évoque le cas de cette jeune femme arrêtée et incarcérée pour avoir voulu assister à un match de volley réservé aux hommes. Bien entendu, Jafar est un piètre chauffeur de taxi qui ne connaît pas bien les artères de la ville et se perd régulièrement. Mais cela fait partie de l'autodérision bonhomme que l'artiste s'impose à lui-même et qui rend le film si sympathique.
Alors, est-ce que cette idée originale de filmer dans un taxi, est-ce que c'est Panahi qui en a la paternité?
Jafar Panahi s'est inspiré d'un film d'un autre Iranien, Abbas Kiarostami, dont il fut l'assistant, et qui a réalisé en 2002 « Ten ». Dans ce film, on y voit une jeune femme libérée au volant de sa voiture, discutant avec ses passagers, dont son fils, un jeune garçon du même âge, et aussi dilérée que la nièce de Panahi. Donc finalement, c'est un peu une reprise. La fille de Jafar Panahi a dit « Pour mon père, le cinéma est la chose la plus importante de sa vie. » Et il est même prêt à mourir pour cela. S'il ne tourne pas, il n'y a pas de différence pour lui entre être libre et être en prison. Et effectivement, sa passion pour le cinéma affleure à tous les instants. D'abord avec le nain, vendeur de DVD piraté, qui propose des œuvres des cinéastes interdits par le régime. Woody Allen, Nouri Begalselan, et aussi un Coréen qui s'appelle Kim quelque chose. Mais c'est surtout vrai dans les dialogues avec sa nièce, une petite chippie à la langue bien acérée. Celle-ci doit, dans le cadre de ses études, réaliser un court-métrage dit « regardable aux yeux de la censure ». Nous avons droit alors à une liste hilarante de contraintes et de commandements contradictoires d'un cinéma jugé orthodoxe qui doit représenter la réalité en cachant tous les côtés sombres qui fâchent.
Alors la question qui se pose en permanence dans ce film, c'est « où commence le réel ?» Et comment le distinguer de la fiction?
Eh bien, ce film est très bien fait et on croit toujours être dans le réel. Mais en fait, on est dans la fiction. Les acteurs et les techniciens sont tous des amis du metteur en scène, souvent des non-professionnels en ce qui concerne les acteurs, et leur nom ne figure pas au générique. Il n'y a pas d'ailleurs de générique pour leur éviter des ennuis. Remarquons aussi que le film a été tourné en 15 jours seulement, dans une voiture dont le toit avait été démonté pour pouvoir filmer à la lumière naturelle sans éclairage d'appoint. En tout cas, là où l'on est bien dans la réalité, c'est quand on découvre Téhéran à travers les vitres du taxi, et en particulier, toutes ces malheureuses femmes en tenue islamique. Hélas, là, nous ne sommes plus dans la fiction.
Oui, enfin, je crois qu'effectivement, une des questions importantes que pose ce film, c'est la ligne de démarcation entre réalité et fiction. François, est-ce que tu en penses?
Moi, j'ai trouvé ce film remarquable, fascinant, féroce, réjouissant. J'ai beaucoup apprécié l'humour. La séquence que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle des poissons rouges. Les poissons rouges dans le bocal et les deux dames qui doivent remettre les poissons rouges dans la fontaine ou dans la rivière. Parce que j'ai l'impression que les poissons rouges, c'était Panaï lui-même. Il est dans son bocal c'est son taxi et il regarde à travers son bocal. Et lui aussi est sur le point de s'asphyxier. Si on l'en met pas bientôt dans sa fontaine, il va peut-être s'asphyxier comme les pauvres poissons rouges bousculés dans la voiture. J'ai beaucoup aimé ce côté drôle de faire ressentir le tragique de la situation.
Alors, toi aussi, c'est ce mélange d'humour et de situation tragique qui t'a séduit ou vraiment que tu n'as pas aimé le film, je ne sais pas.
Ah non, j'ai adoré ce film. Il faut absolument aller voir ce film. À mon avis, pour au moins trois raisons. D'abord, il faut soutenir Jaafar Panahi dans son combat contre l'obscurantisme, mais il faut aussi parce que c'est une délicieuse comédie où on rit beaucoup, un peu comme chez Lubitsch, on rit de sujets graves. Et surtout, à mon point de vue, parce que c'est une exceptionnelle leçon de cinéma. Comment faire un vrai film avec trois caméras dans un taxi et quelques acteurs non professionnels? C'est quand même pas évident du tout.
Oui.
Comment parler avec autant d'humour et de légèreté d'un régime qui vous emprisonne et vous assigne à résidence et vous interdit de filmer? Il réalise absolument un prodige en montrant, finalement, à travers quelques personnages, tous les interdits qui pèsent dans son film sur le cinéma, et tout cela dans des dialogues qui sont pleins d'humour et jamais ennuyeux. C'est merveilleux, ce film.
C'est vraiment merveilleux. Enfin, moi, je trouve ce film passionnant, déjà, enfin, pour toutes les raisons que tu viens de dire, mais également parce que je trouve qu'avec cette pauvreté de moyens qui atteint la 16, il fait un film qui interroge tous les grands principes de base du cinéma.
Exactement.
Déjà, la question de la distinction entre le réel et la fiction, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que pour moi, on ne réussit pas à distinguer le réel et la fiction dans ce film. Parce qu'effectivement, la situation, c'est un scénario tourné. Mais la rue est parfaitement réelle. La voiture, Jaafar Panahi, c'est Jaafar Panahi. Sa nièce, c'est sa nièce. L'avocate, c'est sa avocate. Il y a une espèce, à mon avis, c'est indiscernable dans ce film, la distinction entre la fiction.
C'est la fiction en ce sens que c'est quand même, écrit.
Oui, c'est écrit.
Ah, c'est écrit, c'est contestablement.
Et puis, il utilise aussi des moyens qu'il avait d'ailleurs utilisés dans Ceci n'est pas un film pour rendre un peu de vie aussi avec ces deux caméras mobiles entre guillemets que sont son iPhone à un moment et puis l'appareil photo de la nièce quoi. Donc on introduit finalement la caméra à l'épaule entre guillemets à travers ce biais.
Oui, c'est assez extraordinaire la place que tient la caméra dans ce film, les caméras dans ce film. Enfin, et puis là d'ailleurs, il s'en prend vraiment à notre principe de base du cinéma, la séparation entre le côté caméra et le côté film. En général, c'est absolument séparé, c'est pas une règle. Le regard caméra, c'est interdit. Or là, on est à côté de la caméra. Et il y a des tas de caméras qui prennent des tas de films. Il y a six caméras dans cette affaire-là. Il y a les trois de la voiture, il y a l'iPhone du DVD, il y a l'appareil photo de la petite nièce, et il y a le type qui arrive avec, enfin, on la voit pas, mais il y a la tablette où il a enregistré les
C'est sûr que les caméras sont d'un vrai personnage.
Jusqu'au noir total de l'écran, moi je trouve ça génial. L'écran
d'ailleurs, il les bouge même quelquefois à certains moments.
Il les bouge, oui. Et jusqu'au noir total au moment de l'effraction dans le taxi, où l'écran devient noir, il faut oser. On a l'écran noir pendant plusieurs secondes. Donc, vol de la caméra, et cette voix qui dit... mais on n'a pas la carte mémoire. Et je trouve ça merveilleux. Il se laisse pas piquer sa carte mémoire, Jaafar Panahi. C'est merveilleux, la fin.
Mais maintenant, cette fin est terrible.
C'est terrible.
On a l'impression que c'est un assassinat, hein.
Oui. Mais la carte mémoire,
sauf que la carte mémoire. C'est-à-dire le contenu.
Le contenu même, personne ne peut lui voler. Ça, il en reste le propriétaire, quoi qu'on lui fasse. Jusqu'à la mort, il est propriétaire de la carte mémoire. C'est magnifique comme fin.
Mais ce qui est surtout formidable, c'est le fait de traiter un sujet aussi grave avec cet humour cette légèreté.
Et puis sa personne, il a tellement de bienveillance dans son regard, dans son sourire, on est touché par sa personne même.
Ça donne beaucoup d'espoir sur l'Iran, finalement. Quand l'Iran redeviendra pays normal, qu'est-ce que ça va devenir?
La question posée au début n'avait pas de sens. C'est un film qui mérite largement son festival, son prix de son ours d'or. Largement, on ne peut que dire, précipitez-vous pour voir ce film.
Absolument.
Bon, je ne sais pas si on va et on se précipiter pour voir maintenant le coup de cœur dont je vais parler, c'est la Sapienza de Jane Green. Disons tout de suite, afin que les gens, selon où ils se situent, soient prévenus ou rassurés, Jane Green reste fidèle à tous ses partis pris radicaux. Voilà. S'y ajoute un programme particulier. Il traduit ici le pouvoir sur l'esprit, sur l'âme, des espaces créés par l'architecture, par la beauté. Et ça à partir de quatre personnages. Il y a d'abord Aliénor et Alexandre. Ils constituent un couple miné de l'intérieur. Alexandre est un architecte reconnu de 50 ans, mais qui est lassé de tout. Il vient de recevoir un prix prestigieux et le couple part en Italie sur les traces du grand architecte baroque Francesco Borromini. Au bord du lac Majeur, il rencontre deux jeunes gens, un frère et une sœur, Goffredo et Lavinia. Goffredo se dessine à l'architecture, Lavinia est atteinte d'une étrange maladie de langueur, et à ce point du récit, les couples vont se séparer. Goffredo va accompagner Alexandre dans son voyage en Italie, se crée alors une très belle relation de maître à élève, et au cours de cette relation, l'homme mûr va retrouver son énergie perdue. De l'autre côté, Aliénor va rester avec Lavinia, malade couchée. Aliénor se départit peu à peu de sa lassitude à vivre en soulageant Lavinia. Alors, l'agent qui opère cette mystérieuse renaissance, selon un mot que Jane Green affectionne, c'est la beauté des espaces créés par l'architecture pour accueillir la lumière. Et cette beauté, Jane Green la rend admirablement. Les plans sont absolument magnifiques, et je me souviens en particulier de ce moment extraordinaire, mouvement vertical de la caméra, qui s'élève le long des voûtes concaves de l'église de la Sapienza construite par Borromini, qui s'élève jusqu'à la source de la lumière qui baigne toute l'église, et ce moment est extraordinaire. Voilà, donc je voulais faire partager mon enthousiasme pour ce film de Jane Green. Françoise, est-ce que toi, tu veux nous parler de Voyage en Chine ?
Oui, alors c'est très différent, c'est narratif. On connaît, c'est un film de Zoltan Mayer, qu'on connaît surtout pour ses superbes photographies prises dans le monde entier. Mais il est aussi le réalisateur de trois longs métrages, dont Voyage en Chine, où il dit tout son amour pour la Chine, pour le peuple chinois, sa culture et la langue qu'il a apprise. Il a tourné le film dans le Sichuan, là où la magnificence de la nature rejoint le mystère de rituels religieux et sociaux très anciens. Et il a confié le rôle principal à Yolande Moreau, sans qui, dit-il, le film ne se serait pas fait. Et c'est elle qui porte le film de bout en bout. Elle est magnifique, elle est émouvante, elle est fragile et lumineuse. Elle s'appelle Liliane, elle est vêtue d'un long manteau rouge, et elle traîne sa petite valise à roulettes d'un bout à l'autre du film. Tout commence par une sonnerie de téléphone en pleine nuit dans un petit pavillon de banlieue. Liliane, qui a la soixantaine, apprend la mort de son fils, Christophe, photographe en Chine. Ce fils, rejeté par un père qui ne voulait plus en entendre parler. Liliane refuse la sollicitude tardive donc de son époux et elle part toute seule pour la Chine afin de rapatrier le corps. Il s'agit donc, vous l'avez compris, d'un voyage de deuil et en terre inconnue. Parce que Liliane ne parle pas plus chinois que les Chinois ne parlent sa langue. Mais par un jeu de mimiques, de sourires, de gestes maladroits, la communication se fait. Liliane va retrouver le petit appartement du fils, perdu de vue depuis longtemps. Et c'est là que le film nous émeut particulièrement. Liliane, chaque soir, dans sa petite chambre d'auberge, écrit à son fils. Elle lui dit qu'elle aime le pays où il s'est réfugié, qu'elle aime ses amis, qu'elle le comprend. Et voilà que le fils perdu reprend vie dans son cœur. Au point qu'elle renonce à rapatrier le corps. Il va être inhumé, selon le rite taoïste, du pays où il avait choisi de vivre, loin des siens, pour des raisons qu'on ne saura pas. Je ne vous dis rien de la toute dernière image, c'est une surprise. Ou presque. Voilà un film fragile et doux, un film sur la réconciliation. Celle dont il est dit qu'elle peut toujours avoir lieu et apaiser, même après le temps de la vie. C'est un film qui rend heureux, et c'est assez rare pour être signalé.
Eh bien, merci pour ce bonheur. Jacques, toi, tu nous ramènes en Italie, je crois.
Oui, je vous ramène en Italie aussi pour un film un peu intellectuel. Donc, Leopardi, Il Giovane Favoloso, Le jeune homme fabuleux, est un film du réalisateur italien Mario Martone. Il raconte en quelques épisodes la vie de Giacomo Leopardi, le plus grand poète italien du 19e siècle, le poète du pessimisme, malade, bossu, aspirant à la mort et mort à 39 ans. Alors son œuvre est peu connue en France, mais très célèbre en Italie. Ce film est donc l'occasion pour les spectateurs français de découvrir ce poète. Alors le film est très beau. Il nous emmène dans une évocation raffinée de l'Italie du début du 19e siècle, qui est en proie au premier frémissement des idées libérales et nationalistes. Nous suivons d'abord Leopardi dans sa jeunesse à Recanati, dans la sombre demeure familiale. Son père, le comte Monaldo, a réuni une bibliothèque impressionnante, mais il dirige d'une main de fer les études de ses trois enfants. et il destine Giacomo à la prêtrise car sa santé est déjà trop chétive pour lui succéder. Donc Giacomo aura la force de fuir la maison paternelle et le film le suit à Florence, puis à Rome et enfin à Naples. Et ça si est intéressant, chaque étape est marquée par une société très différente, intellectuelle et artistique à Florence, dominée par le monde ecclésiastique à Rome, et miséreuse et dévastée par une épidémie de choléra à Naples. La richesse du film est double, outre sa beauté formelle, elle est dans l'évocation de ces sociétés de l'Italie du 19e, que nous connaissons assez mal en France, mais elle est aussi dans la peinture d'un poète, dans son travail de création. Le film utilise en effet de nombreux textes de Leopardi pour les dialogues, et il montre un homme à la fois tourné vers les autres, mais rongé par les souffrances physiques que lui impose sa maladie et par l'idée de la mort. Et l'interprétation qu'en donne Elio Germano est magistrale. Il arrive à incarner ce personnage très tourmenté en faisant évoluer son physique de plus en plus disloqué et bossu de l'adolescence à sa mort. Une performance exceptionnelle dans un très beau film, peut-être un tout petit peu trop long.
Oui, merci Jacques. Un peu long, mais très beau, c'est vrai. Jean, toi tu nous parles Lost River.
Lost River, c'est le premier film de Ryan Gosling, plus connu jusqu'à présent pour ses performances d'acteur, notamment dans Drive ou Only God Forgive. C'est donc un coup d'essai, mais pas encore un coup de maître. Les premières scènes montrent des engins en train de détruire des maisons, tandis que les habitants déménagent leurs meubles pour fuir leur ville, vraisemblablement Detroit, en train de mourir suite à la crise des subprimes qui les a ruinés. Le ton est donné. Reste dans la ville, une mère célibataire, Billy, et ses deux fils, dont l'aîné, Bones, est presque adulte. Ses personnages principaux vont suivre deux voies distinctes pour survivre. Billy, accablé de dettes, finit par accepter de se produire dans un cabaret macabre, dirigé par un banquier pervers et fréquenté par des clients qui souhaitent oublier leur malheur. Les scènes gore se succèdent dans une atmosphère trouble et fantasmagorique. Effusion de sang, enfermement dans les sarcophages, visage tailladé. Ryan Gosling filme dans la droite ligne de l'expressionnisme du cinéma allemand des années 30 et c'est très convaincant. Quant à Bones, il erre dans la ville en ruine, en essayant de gagner de l'argent en volant du cuivre. Mais il se heurte aux redoutables caïds du secteur qui torturent et tuent tous ceux qui s'opposent à lui. Comme sa mère, mais dans un autre domaine, Bones va entraîner le spectateur dans l'épouvante. Et, par exemple, il va finir par plonger de nuit dans la retenue du lac pour remonter un objet capable de briser la malédiction qui plane dans la ville. Là, nous ne sommes plus dans le film d'horreur comme avec Billy, mais dans le fantastique. Avec ces deux pôles, horreur et fantastique. Et malgré quelques outrances et maladresses, ce premier film et de Gosling apparaît comme une œuvre intensément personnelle et exerce sur nous une fascination permanente. Puisque j'ai la parole, je tiens à signaler la sortie de deux films remasterisés, emblématiques du cinéma noir américain, à voir ou à revoir. Les Tueurs de Robert Siodmak, 1946, Burt Lancaster et Ava Gardner, et à bout portant, Don Siegel, 1964, Lee Marvin, John Cassavetes et Ronald Reagan.
Oui, merci pour ce rappel, Jean. Je crois qu'il est venu de temps de nous quitter. Merci à Françoise, à Jean et à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Cécile qui en a assurer la réalisation technique. Merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission qui aura lieu le mardi 26 mai 2015 et qui sera consacrée à une revue du Festival de Cannes. Donc, à bientôt. Et merci.